Salut, bienvenue sur Be My Fétiche, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. On parle aussi de pratiques sexuelles alternatives. Ici, on va explorer le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte, ni un tabou, et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à la fétichisation des personnes arabes et aux musulmanes et aux personnes noires. Certains propos rapportés qui seront évoqués ici seront donc des propos à caractère raciste, islamophobe, sexiste, discriminatoire, etc. Dans la deuxième partie de cet épisode avec Jamal, créateur du podcast Jeans, nous allons parler de politique, d'homonationalisme et de racisme institutionnalisé. Nous nous intéresserons aussi à la question de la réappropriation des termes qui tendent à fétichiser les personnes arabes, noires, musulmanes. Bonne écoute. Pour poursuivre peut-être sur cet aspect politique, selon Justin Lemiller, donc un chercheur en sexualité et psychologie à l'Institut de Kinsey à l'Université de l'Indiana aux États-Unis, il considère donc dans une étude qu'il a menée que le racisme institutionnalisé aux États-Unis semble s'infiltrer dans nos fantasmes. Et donc en fait, le racisme, enfin moi c'est la question que je me pose à... Enfin, c'est la question que ça me conduit à me poser. Le racisme est-il aussi institutionnalisé et donc systémique en France? Et penses-tu que la politique française et la manière dont sont présentées les personnes arabes et aux musulmanes de France puissent conduire aussi, participer quelque part, à fétichiser ces personnes?
Ah bah, bien évidemment, bien sûr. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Il y a un racisme institutionnel en France, c'est une évidence. Il y a une discrimination qui est d'ordre systémique, c'est une évidence. Les institutions de la République sont gangrénées par cette vision racialiste et c'est bien évidemment problématique sous tellement de volets. Alors il y a une charge raciale aussi psychologique parce qu'il y a un coût économique aux discriminations quotidiennes, il y a une blessure sociale aussi qui s'ouvre de plus en plus à cause de la violence policière orientée vers les personnes arabes et aux musulmanes et des faciès et compagnie. Et l'islamophobie qu'on adresse aux personnes concernées pour rééduquer ces personnes qui ne savent pas, qui ne sauront jamais assez ce qu'est être vraiment français, parce qu'être français, apparemment, ce ne sera jamais être musulman. Et donc cette condescendance-là, cette violence, elle se retrouve aussi sous les draps, en fait. Ce racisme systémique, cette fétichisation globale, elle se retrouve dans l'intime aussi. Parce que l'homme blanc, du coup, il va venir soit attaquer cet archétype-là de l'arabe et ou musulman, qui va être le violeur, qui va pouvoir lui voler sa femme, ou alors l'homme blanc va venir sauver la femme arabe qui sort de sa cité pour lui apprendre la vie et la sexualité. Mmh. C'est un peu ce qu'une théoricienne qui s'appelle Gayatri Spivak disait, je crois, elle disait « Les hommes blancs sauvent les femmes brunes des hommes bruns. Mmh. » C'est-à-dire que, voilà, les hommes blancs viendraient... être, voilà, c'est le syndrome du white savior en fait, c'est le white saviorism, c'est je viens vous sauver de l'emprise de vos frères et pères et congénères qui sont des sauvageons et des bicots. Et c'est pareil d'ailleurs pour dans le volet homosexuel, parce que l'écrivain marocain Abdel Attaya, il en parle merveilleusement bien dans ses romans quand il dit que l'homme suisse qui vient le chercher au Maroc. Alors qu'il est, voilà, qu'il est un jeune homme encore éphèbe, il vient le cultiver, il vient l'acculturer, il vient lui montrer la civilisation en lui prenant un billet d'avion en Suisse. Donc voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a un cadre plus que politique, il y a un cadre idéologique. Et ça, je pense qu'il est impossible de parler de ça sans parler de la question abordée par Jasbir Puard, qui est aussi une grande théoricienne du genre et qui exprime ce que je viens de dire par la notion de l'homonationalisme. Alors l'homonationalisme c'est quoi? C'est en fait une idéologie qui est attribuée à certains groupes des nations occidentales qui sont des bastions du progressisme sexuel ou c'est la libération sexuelle ou c'est sexe positif, etc. Comme à San Francisco, comme à SF. fait, aux États-Unis, ou même à Tel Aviv, comme quoi c'est pas que l'Occident, par opposition à un Sud, en particulier moyen-oriental ou africain, qui seraient des barbares, qui seraient eux des frustrés du cul, des barbares, etc. Et donc du coup, l'homophobie, ce serait une haine uniquement cantonnée à ces pays arabo-musulmans ou africains ou aux banlieues de Marseille, parce que Marseille, c'est pas vraiment la France, du coup. Voilà. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une seule manière d'être homo, qui serait définie par l'Occident et qui sait mieux que toute personne sur Terre comment être homosexuel. Voilà. Ça veut dire aussi que si une personne queer est racisée ou musulmane en Occident, il faut être queer comme on l'entend en Occident et pas
Oui.
autrement. Faut être, voilà, il n'y a pas d'intersectionnalité possible. Et c'est marrant parce que moi, une des phrases qui m'a le plus frappé quand j'ai interviewé Fatima Daas, donc une jeune écrivaine brillante qui me disait que la première fois qu'elle sortait de Clichy-sous-Bois, qui était censé être un quartier pas très bien famé, etc., en tant que femme lesbienne, d'origine algérienne, musulmane pratiquante, dans les soirées branchées de Paris, pour enfin se dévoiler avec les autres femmes lesbiennes et se dire qu'elle a des gens qui lui ressemblent. Voilà. Quand on a voulu lui servir un verre, elle a refusé. On lui a dit, et meuf, si t'es lesbienne, tu bois en fait. Tu peux pas être musulmane et lesbienne. Donc soit tu bouffes du saucisson et tu bois avec nous, soit tu dégages en fait.
Ouais.
Donc il y a vraiment ce
Une
côté-là,
injonction.
ouais, une injonction absolue à être homo comme il faut être homo selon la définition occidentale. Et donc si ce qui est dingue, c'est que ça se reprend, encore une fois, je parle beaucoup d'extrême droite malheureusement parce que je suis stressé par les présidentielles, mais si on parle de politique, on évoquerait aussi l'engouement des électeurs homosexuels pour le parti d'extrême droite. Enfin, je veux dire, le Rassemblement national, il a connu depuis Florent Philippot, il y a Sébastien Chenu, il y a l'ultra beau gosse Julien Odoul qu'on a mis aux côtés de Marine Le Pen pour faire joli. Voilà, il y a toutes ces figures-là de l'homosexualité ou de l'homo-érotisation de ce parti-là pour dire ok, it's fine, ils peuvent être avec nous, ceux-là, c'est déviant, là, on peut les invertir, on peut les mettre avec nous dans. Parce que c'est comme ça qu'en parlait Jean-Marie, hein, à la base. Enfin, il y a des gens qui se reconnaissent dans les propos des personnes qui incarnent l'extrême droite aujourd'hui. Il y a un quart des hommes se disant homosexuels en France qui ont des intentions de vote à l'extrême droite ou bien droite. Enfin, j'allais dire beurk, quoi. Enfin, il y a quand même un non-sens. Alors, bien sûr que, évidemment, tout le monde est invité à avoir libre conscience de ses choix politiques et sa démocratie, etc. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se joue de ces personnes-là dans leur propre façon de subir leur domination, en fait? Parce que là, les propos tenus par le Gremlins et par Dame Le Pen, ce n'est pas des propos qui sont hyper acceptants de la communauté queer, en tout cas. Juste un petit point là-dessus, très rapidement, c'est le fait aussi que les hommes gays, blancs, parisiens généralement, ou lyonnais, ou bordelais, voilà, qui sont des cercles CSP+, cet imaginaire-là de tout va bien dans le Marais, en fait, à Paris, bah, en fait, c'est un imaginaire où ben, se jouent encore ces rapports d'oppression entre des hommes blancs qui ont grandi avec cette, évidemment, une oppression d'homophobie très forte, qu'il y a de moins en moins dans leur quartier réservé, du coup, ce qui a quand même aussi cette territorialisation. Là aussi se jouent des rapports de pouvoir entre ces hommes gays blancs qui ont lutté dans le temps pour se faire accepter tel qu'ils étaient dans une société homophobe qui l'est toujours encore aujourd'hui, et en plus de se dire que leur vision, leur combat, leur idéal de leur homosexualité vécue à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon devait être maintenant colonisé par des personnes qui seraient beaucoup plus intersectionnelles, qui seraient beaucoup plus racisées, qui seraient beaucoup plus colorées, qui seraient. Ben non, il y a des hommes gays blancs qui sont complètement dans une démarche de xénophobie ou d'altération, en fait, de ce que pourrait être l'homosexualité, en fait. Ils voudraient avoir l'homosexualité comme unique définition qui leur correspondrait en tant qu'homme blanc. Et le reste ne serait que fétichisation. Le reste ne serait, ah bah si je, bah ouais, moi, je me suis déjà tapé un petit rebeu, déjà comme il en parle, ça veut dire aussi que, ben, il en parle de manière condescendante, il en parle de manière, voilà, néocoloniale. Il y a vraiment ce côté-là, en fait. Et donc, c'est important de rappeler quand même que c'est pas parce qu'on est gay qu'on est forcément de gauche, et c'est sûrement pas parce qu'on est gay blanc que on va jamais voter à l'extrême droite, ou qu'il n'y a rien qui se joue en nous de fétichisme sexuel ou de racisme sexuel ou de racisme tout court, parce qu'on est soumis aux mêmes injonctions hétéropatriarcales et d'état au racisme systémique très prononcé que tous les autres, en fait. Donc voilà, c'est.
Oui, complètement. Tu parlais justement donc de racisme en général dans la société, aussi dans la politique. Ça me fait penser à une citation, enfin plutôt ça me fait penser à un interview donc du créateur du compte Instagram, donc personne racisée vs Grindr, qui dans un interview pour le magazine en ligne LGBTQI+ Committed, a donc dit, si le racisme arrive à s'installer dans des choses aussi intimes que les relations sexuelles, il est obligatoirement dans tout le reste de la société. Donc dans tous les cas, voilà, on le sait que le racisme il est présent en France et que nous recevons une éducation qui va en ce sens sur certaines choses, même si il tend à y avoir de plus en plus de déconstruction et de changement des mentalités à ce sujet, et c'est une bonne chose selon moi, qui est ce changement et cette volonté de tout simplement rappeler que le racisme, c'est un délit, c'est une infraction et ça n'est pas acceptable. En ce qui concerne les applications de rencontres, sont-elles un miroir en fait qui exacerbe le racisme présent dans notre société comme un lieu quelque part où la haine serait libre de s'exprimer en toute impunité? Ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'endroit où on trouve parfois des propos, des commentaires sur le physique des personnes, sur la sexualité, qui est quand même hyper violent. Derrière, il y a une certaine haine aussi, ou comme tu le disais tout à l'heure, une exotisation. Ah, moi j'adore les blacks qui ont des grosses bites, ou je kiffe les rebeux domis, où on vient exotiser du coup une origine, une couleur de peau.
Tout à fait, oui, c'est extrêmement violent. C'est Didier Ribon, en fait, qui disait dans Réflexion sur la question gay, au commencement, il y a l'injure. Et l'insulte, elle a un pouvoir énorme parce qu'elle condense le sens que l'on met dans l'oppression. Quand on utilise le mot commençant par haine pour parler des personnes noires, on charge de sens la dimension de domination, d'animalisation, de réification, de chosification qui est propre à l'univers esclavagiste pour les personnes noires. Donc quand on compare Christiane Taubira à un singe, on l'animalise, d'accord? On efface son humanité, on revient à un racialisme biologique. Mais attention, parce que quand on dit Renoir et Quebla et Black aujourd'hui, ce n'est pas souhaitable non plus. Il ne s'agit pas, en fait, de détourner le mot pour faire cool ou pour contourner. Il y a toujours cette espèce de tension quand, souvent pour les personnes blanches qui disent Renoir ou Black, ou plutôt Black, parce que ça fait plus stylé en anglais, quoi. Les personnes blanches, elles vont éprouver dans la seconde où ils disent le mot cette espèce de tension, parce que noir, c'est comme si c'était une insulte. Maintenant, en fait, comme si arabe était une insulte, c'était diminutif de dire arabe ou noir, parce que ça fait peur, arabe, noir. Voilà. Donc, c'est non, la culture minoritaire, elle est toujours en partie façonnée par la culture dominante dans laquelle elle prend forme. Et forcément, quand on parle de l'homme cisgenre, hétérosexuel, blanc, riche, parisien, valide, qui dit pédé, pute, salope, clodo, rabzouze, négro, beurette, triso, bah, on entre dans le champ de ce qu'il ne faut pas être. Et c'est ça qui est vraiment insultant. C'est ça qui devient la violence absolue. L'identité propre d'une personne devient une sale insulte. C'est là où ça devient intéressant, parce que il y a en sociolinguistique ce que l'on appelle une transvaluation du mot. C'est-à-dire que les personnes opprimées, elles vont reprendre le mot insultant en le chargeant d'un sens opposé. celui qui renforce l'identité et qui va bouleverser la mécanique de l'insulte. Donc c'est comme le mot queer, qui était une insulte à la base pour dire étrange, déviant, bizarre, qui était utilisé dans les années 60 par les personnes dites queer aujourd'hui pour convoquer leur identité extravagante, puissante, incarnée dans des personnes qui sont fières d'être déviantes, d'un ordre dominant et dominateur, en lui attribuant une connotation positive cette fois-ci, une connotation colorée. Voilà. Et c'est important de se réapproprier ces termes-là parce qu'il s'agit là aussi de réassignation des mots, en fait. C'est voilà, une réappropriation du langage. Et ça me fait penser aussi par rapport à la France, au manifeste des 343 salopes, qui sont des femmes qui ont avorté au début des années 70 et qui ont manifesté, et qui ont écrit un manifeste autour de ça. Ça donnait aussi la déclaration du phare, si je me souviens bien, c'était d'ailleurs aussi dans le Todd Shepard, du phare qui est le front homosexuel d'action révolutionnaire et qui déclarait grossièrement, hein, je l'ai dit de mémoire, nous sommes plus de 343 salopes, nous sommes faits enculer par des Arabes et nous en sommes fiers et nous recommencerons. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de reprise à leur compte, je sais pas trop s'il faut dire ça aujourd'hui, mais il y a une sorte de volonté d'inverser le rapport colonial pour décoloniser les esprits et du coup avoir un combat antiraciste. On arrête d'attribuer une connotation négative à des choses qui sont simplement des identités.
Je
Voilà,
trouve
donc il
que
faut.
c'est ça le point complexe, c'est que même quand il peut y avoir une connotation entre guillemets pour la personne qui la prononce positive, on parle justement de réappropriation, il y a des termes comme entre guillemets beurre de cité, black XXL qu'on retrouve sur les applications de rencontres dans les pornos. Les beurre d'omi, master rebeu, etc. On observe du coup, comme tu le disais, un renversement du schéma classique de domination. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, cela ne vient pas nourrir un fantasme, créer un nouveau fantasme en fait, par exemple chez les personnes blanches, être dominé par une personne arabe ou musulmane, par l'étranger, cet autre en fait qui ne nous ressemble pas mais qui dégage force, bestialité, virilité, ou comme tout à l'heure tu le disais, les 3 V, ces 3 V qui sont qui ont leur racine dans la colonisation, le côté voleur, violent, violeur.
Oui, tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai un théoricien, écrivain, essayiste, peu importe comment on l'appelle, c'est juste un petit génie qui s'appelle François Fanon, qui écrivait Le blanc est persuadé que le nègre est une bête, si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. Et c'est vraiment la force du propos qui englobe bah, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que. J'avais reçu aussi Pascal Blanchard, qui est historien que j'avais reçu dans Jeans, qui expliquait aussi dans Sexe, Race et Colonie que les peuples colonisés sont construits comme des êtres ayant une sexualité bestiale, débridée, sans morale et sans limite. Et donc la taille du cul, la taille du pénis, la taille de la vulve sont disproportionnées. Ça dépasse de partout, quoi. Ça suinte de sexualité et de dépravation. Il y a toujours une sorte de fascination et de répulsion, encore une fois. Mais du coup, j'avais eu déjà du coup, un témoignage d'un homme noir qui se sentait disqualifié parce que son sexe était trop petit pour être celui d'un homme noir. Et ça faisait souffrir, en fait, cette personne-là. Parce que, voilà, c'est vraiment le mot, c'est la disqualification. Il ne fait plus partie du groupe racial, ethnique, social, peu importe, auquel dans lequel il se reconnaît ou auquel il appartient de manière perceptive parce que. En fait, il ne correspond pas à ces idéaux-là. Et donc, vraiment, beurre d'omi, Black XXL, ça renforce le stéréotype de race. Parce que c'est du côté d'une domination illusoire. C'est la domination de la force et de l'hypervirilité. Alors que, en fait, ils sont soumis à une essentialisation. C'est-à-dire qu'ils sont réduits dans leur identité. Master Rebeu, c'est hyper violent. Parce qu'il s'agit de reproduire un schéma esclavagiste. Je ne juge pas, évidemment, je ne shame pas les personnes qui ont des rapports sexuels BDSM, qui sont basés sur le rapport de domination et de soumission en plein consentement, tant que c'est un jeu sexuel, et aussi tant qu'ils ont compris d'où ça vient. Voilà, le consentement est clé. Pareil, quand on dit DZ pour Jazairi, donc qui veut dire Algérien en arabe, qui du fait de l'histoire coloniale, encore plus entrelacé avec la France, c'est un arabe pas comme les autres. C'est-à-dire que l'Algérien, c'est un plus qu'arabe. C'est l'arabe qu'on n'aime pas, quoi. C'est encore un arabe plus, quoi. Donc,
Ouais,
comme un.
c'est les
C'était
Arabes qui ont
un.
été persécutés, qui ont été tués en France.
Ils ont été tués aussi parce qu'on les déteste, parce que c'est eux qui auraient dû être dominés, encore dominés, toujours dominés. Et donc c'est comme si on avait dit qu'on avait assimilé un ennemi de l'intérieur, mais pas assez assimilé parce qu'il continue à montrer son drapeau fièrement quand il y a des matchs, parce qu'il continue à aller à la mosquée le vendredi après avoir fait ses bêtises. Donc voilà, pour moi, il est vraiment urgent que les personnes racisées ou musulmanes se réapproprient leur plaisir et reprennent le contrôle de leur sexualité et regagnent ce qu'on appelle en anglais agency, l'agentivité, c'est-à-dire la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir lui-même sur le monde. C'est-à-dire, c'est pour moi la solution la plus importante pour être complètement maître de soi-même, même dans des relations BDSM, même dans des relations de fétichisme, etc. C'est-à-dire être libre et surtout sujet et non pas objet du regard ou du désir de l'autre. C'est pourquoi il y a des femmes comme Lisa Boutelja qui parle de beurrétocratie, donc qui reprend à son compte le fait d'être beurrette, ou par exemple des hommes noirs gays qui ne veulent coucher qu'avec des hommes noirs. C'est-à-dire, c'est très important. C'est des personnes qui ont choisi de se restreindre à ça pour éviter ces stratégies d'évitement en fait de la violence qui est infligée par l'hétéropatriarcat blanc, par l'homonormativité blanche, etc. Ils les reprennent à leur compte et font ce qu'on appelle, du coup, c'est un peu la même chose que ce que je disais sur le langage avec la transvaluation, c'est le retournement du stigmate. C'est comment on se libère de cette main invisible, parce que blanche est dominante, qui vient nous imposer notre propre vision de notre identité et de nous. Et alors, dernier exemple, c'est l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'homme arabe fort, velu, musclé, qui serait dans une scène de porno, gay, oriental, où on sentirait voilà, les chichas, les volutes de fumée et tout. Si par exemple, dans un porno comme ça, l'homme arabe peut être passif, mais en érection, ça veut dire qu'il prouve qu'il peut en puissance être le pénétrant. Donc on a une grille de lecture ici où l'homme passif n'est plus rapporté à la figure supposément inférieure de la femme pénétrée, passive, voilà. Et en fait, il existe des façons de voir les rapports de domination et de pénétration de manière intercroisée pour que, en fait, on se dise que l'homme passif n'est pas celui qui fait la femme, n'est pas celui qui se soumet, n'est pas celui qui ne peut que se donner à une puissance virile, velue et musclée. Mais c'est une personne qui prend en compte son propre désir, qui est sujette et qui le reprend à son compte et qui va vouloir la pénétration pour son plaisir sexuel. Et montrer ça dans un film porno, montrer une personne qui est un homme arabe fort, velu, musclé, etc., qui serait en érection et qui, du coup, serait pénétrée, ça montre que c'est pas juste cette petite bite flaccide voilà, qui peut rien faire et qui du coup est obligée d'être pénétrée. Voilà. C'est vraiment ce rapport de reprendre le pouvoir sur la classe, le genre, la sexualité et d'inverser des rapports de pouvoir dans la position sexuelle. Voilà.
Et au final, ne plus être objet des stéréotypes et des clichés, objet de l'autre en fait.
Exactement.
Peu importe l'identité de l'autre, mais au final, se réapproprier son identité dont on a été dépossédé pour au final, effectivement, réintégrer et embrasser complètement sa sexualité, mais comme on a vraiment envie de la définir.
Exactement, et surtout pas les démarches de distanciation. Il y a France Fanon qui disait aussi, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. C'est-à-dire que il y a vraiment ce rapport-là de distanciation, de racisme internalisé, en fait, bah oui, bah en fait, comme je suis un homme noir et que j'ai une grosse bite, bah forcément je vais pénétrer, et je vais tabasser au lit, je vais défoncer une chatte blanche. Voilà, on se met aussi dans les circonstances qu'on nous impose. Voilà, donc c'est vraiment pour moi le concept d'agentivité, de agency, le fait de pouvoir reprendre le contrôle de son propre désir, de devenir sujet, non pas objet, c'est vraiment capital, quoi.
Oui, complètement. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on a parlé de beurre bourrin, par exemple. Il y a, selon Youssef, donc jeune femme trans-marocaine qui a été interviewée par Committee, donc dans le cadre de l'article que j'ai cité précédemment, qui disait que la fétichisation autour des beurres mélange classe et race. Et moi, je rajouterais aussi même un rapport toxique à la masculinité ou un rapport voilà, particulier à la masculinité. Et elle
Ouais.
ajoute, on a vraiment ce fantasme de l'arabe de banlieue qui vit son homosexualité de façon clandestine, et du fait de la clandestinité, il exprimerait sa sexualité avec une relative violence. Et ce qui crée avec une espèce de mythe, en fait, du beurre bourrin. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'origine du terme beurre et de sa signification et de la manière dont il est utilisé aujourd'hui?
Oui, bien sûr. En fait, il y a des rapports de domination classiste, donc par rapport à la classe sociale, raciste, sexiste, xénophobe aussi, que cette jeune femme trans avait tout à fait raison. Aussi parce qu'il y a une question de l'étranger, des personnes migrantes, des personnes qui sont parfois dites apatrides, parce que même si elles sont nées ici, elles n'ont pas de patrie. Enfin, doivent revenir là où elles sont supposément nées. Pour les Français de souche. Donc, le concept de beurre, le mot beurre, c'est un terme qui résulte d'un double verlan, en fait. Quand on retourne une première fois les syllabes d'arabe, ça fait rebeu. Et quand on retourne encore une deuxième fois ce mot-là, ça donne de rebeu, on arrive à beurre. Et donc, la beurette, c'est la féminisation de cette expression qui a été popularisée. Dans les années 80, après la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83. Mais c'est que dans les années 2000 que la pornographie va donner au mot beurette une connotation sexuelle. Parce qu'avant, c'était juste une qualification plus ou moins connotée encore. C'était pas non plus trop sexualisé. Et on n'a pas, du coup, encore une fois, là, hein, comme on parlait sur les chers et les chérettes, encore une fois ici, on n'a pas donné à beurre un petit e pour féminiser et dire une beurre-e, mais on l'a mis en beurette, ce qui a une connotation non seulement féminine, mais de minoration, de mise sous tutelle. C'est-à-dire on l'a amoindrie, elle, c'est une petite beurette. Donc le mot beurette, c'est non. Moi, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille, c'est on arrête de dire ce mot. C'est la sociologue Nassira Guenif-Soulamas qui dit que ce mot participe de deux registres, que sont le racisme et le sexisme, et que son usage y renvoie à des jeunes femmes d'origine maghrébine, voilà, racialisées, sexualisées selon cet imaginaire orientaliste et colon. Et elles sont par définition issues des banlieues, puisque les parents et les grands-parents y ont été logés après l'indépendance des pays nord-africains. En tout cas, il ne faut plus que ce soit un terme utilisé parce que, en tout cas par les blancs, il faut plus que ce soit un terme utilisé par les grands. De la même façon que le N-word aux États-Unis, dans la communauté noire, est devenu un mot et un mode de socialisation, entre personnes noires, qui traduit un réveil de conscience historique, commune, celle de l'esclavagisme, celle de l'apartheid, celle de la ségrégation, etc., il peut être utilisé entre personnes arabes. À leur propre compte, mais il ne faut pas que des hommes blancs utilisent le N-word aux États-Unis ou que des hommes blancs utilisent le mot beurette ici en France. Il y a vraiment une vision atroce de ce qu'est la sexualité arabe. Et donc voilà, c'est ça la construction du mot beurre, mais c'est vraiment engoncé, ancré, enraciné dans une dynamique oppressive de comment on pense les personnes arabes en France. Voilà.
Et c'est encore quelque chose qu'on retrouve, qu'on voit. On a parlé tout à l'heure par rapport au site porno. On peut encore taper aujourd'hui ou en allant directement sur les sites. Ça arrivera très, très vite sur l'écran. Beurette qui se fait, je sais pas, démonter par X ou Y, ou beurre de cité qui démonte un blanc, etc. Donc voilà, malheureusement, c'est encore quelque chose qui est véhiculé, alimenté, comme on le disait, par l'univers de la pornographie. Et on a déjà évoqué brièvement la question tout à l'heure de l'histoire coloniale. Dans leur livre Homo Exoticus, Race, Classe et Critique Queer, Nick Rhys Roberts et Maxime Servulle écrivent que les fantasmes raciaux, dont l'origine se trouve bien évidemment dans l'histoire coloniale, postcoloniale et décoloniale, sont complexes. Avant d'ajouter plus loin, au fond, c'est une manière d'érotiser le pouvoir social. Et Cristiano Rodriguez, donc lui, chercheur en sciences politiques à l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil, indique quant à lui que les racines historiques du fétichisme des communautés gays brésiliennes reflètent notre passé colonial et esclavagiste, parfois reproduit dans les expressions populaires comme noir pour cuisiner, métisse pour baiser et blanche pour épouser. Et donc je me demande si la fétichisation raciale au final, comme on l'observe aujourd'hui, comme on en a parlé dans les films pornographiques, dans la manière dont est fantasmé le beurre, la beurette, etc. Voilà, cette fétichisation raciale n'est pas une forme en fait de néocolonialisme, une manière de s'approprier, de posséder le corps des personnes arabes et aux musulmanes, et au final de les déposséder d'elles-mêmes de leur identité.
Évidemment, évidemment, ce serait une complète connerie de le nier. En fait, les musulmans, ou les arabes, ou les noirs, c'est les ennemis de l'intérieur. C'est comme ça qu'ils sont dépeints, en fait, par les gros méchants loups de l'extrême droite. C'est l'histoire, en fait, comme on l'a montré en France. C'est un espèce de petit cancer qui gangrènerait la société, qu'il faudrait pourchasser dans les moindres recoins de la société. Voilà. C'est vraiment la France et les autres pays esclavagistes et colonisateurs, ils ont réinventé l'autre avec un grand A. Pour mieux le dominer, pour mieux le posséder, pour posséder son corps, mais aussi son territoire. Françoise Vergès disait, voilà, posséder le ventre des femmes. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour implanter leurs graines et leur drapeau sur un territoire et sur un corps. Et la violence des fantasmes qu'on projette sur les populations colonisées, elle est sans limite, puisque le corps de l'autre, avec un grand A, il est placé en dehors du champ licite des normes. Ce corps-là, il est plus proche de l'animal, il est plus proche du monstre que de l'humain. Donc, comme c'est un animal et un monstre, on peut tout lui faire. Il est plus en affinité avec la nature qu'avec la culture, ce corps-là. Donc, on peut tout lui faire. Mais attention, il est aussi nécessaire de construire l'autre comme une altérité extérieure, dangereuse et étrangère. Pourquoi? Parce que l'existence des femmes arabes et afrodescendantes sont toujours vues comme faciles, lascives, lubriques, perverses, etc. Et donc forcément insatiables. Et donc face à ça, ça permet aussi à l'homme blanc colon de construire en miroir l'image de l'épouse blanche, idéale, virginale, pudique, chaste, réduite à une sexualité purement reproductive.
Oui,
Donc
c'est
en fait,
ça.
avec le temps et l'histoire, ça a été construit comme étant, voilà, on va déverser notre lubricité diabolique dans le ventre des femmes africaines qui sont des sauvageonnes, là où mon épouse blanche pourra donner une race supérieure, en gros. Et donc c'est vraiment ces imaginaires sexuels coloniaux, ils ont façonné les mentalités des sociétés occidentales aujourd'hui, mais ils ont aussi bien sûr déterminé celles des dominés. Bien sûr que même les dominés, eux aussi, et elles aussi, et elles aussi, doivent faire un travail de déconstruction, plus que jamais, en s'attachant notamment aux images qui ont été produites tout au long de cette histoire, et de se déconstruire de ça pour mieux se reconstruire, et encore une fois, reprendre leur agency, quoi, et de reprendre leur propre sexualité, leur propre désir.
Oui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, au final, se réapproprier son identité, se réapproprier son corps, pour au final se réapproprier sa sexualité et complètement s'autodéterminer, en fait. Ne plus laisser la possibilité de poser une étiquette, un mot sur la personne qu'on est.
Et oui, et puis je voudrais ajouter une dernière chose, parce qu'on parle beaucoup des personnes arabes et musulmanes ici, parce que c'est un peu le fait du podcast Jeans, mais quand on parle de négrophilie, de négrophobie, d'accord, c'est encore une fois les phases opposées de la même pièce. Les mecs cis blancs qui sont hétéros ou gays, qui réduisent une personne uniquement à sa race, c'est une démarche essentialisante, racialisante. J'en ai parlé de ce terme de négrophilie ou de négrophobie avec la génialissime chercheuse Maboula Soumaoro. Et ce terme, on l'aime pas trop, hein, le terme de négrophilie, parce que ça voudrait dire qu'on aime les noirs, tous les noirs, de manière totalisante. C'est tous les noirs qu'on aime. Pas, s'il y en a un qui est noir qu'on n'aime pas, c'est pas possible. Ben non. Ça veut dire justement qu'on objectifie l'autre sous couvert de bons sentiments et qu'on efface son individualité, ce que je disais tout à l'heure. Parce que le racisme, c'est physique, c'est sexuel, c'est systémique, mais c'est aussi ce qui efface l'identité. Le racisme, c'est ce qui la met en dessous des autres identités. L'individu, il n'est plus pris en tant que personne, il est abordé sous le prisme du groupe auquel on lui confère l'appartenance. Donc s'il est arabe, c'est qu'il doit être violent, violeur, voleur. Mais cet effacement, il est occasionné par quelqu'un. C'est l'un des privilèges blancs de pouvoir encore invisibiliser à souhait ces problématiques raciales. Parce que, comme le dit très bien Rénie Dolodge, qui est une jeune journaliste britannique noire, le racisme est un problème de blanc. Il n'y a pas eu de noir sans blanc. Et ils se sont construits historiquement comme supérieurs pour pouvoir prouver l'infériorité supposée des personnes noires. Donc encore une fois, il s'agit non pas qu'aux noirs de se réapproprier leur corps et leur sexualité, leurs désirs, etc., mais il s'agit aux blancs de se réveiller et de faire preuve d'un minimum d'abnégation, de jugeote, qui réfléchissent 2 secondes, qui se disent comment je participe à ça. Mais moi, je voudrais juste aussi mentionner, pour finir, pour citer encore et encore lui, Frantz Fanon, il dit, pour nous, celui qui adore les Noirs est aussi malade que celui qui les exècre. Ça veut tout dire, cette phrase. Elle résume bien et je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. C'est-à-dire que retenons quand même qu'il ne s'agit pas de suraimer parce qu'il est noir ou il est arabe ou elle est musulmane ou elle est chinoise ou elle est asiatique, sud-asiatique ou latina, etc. De suraimer quelqu'un aussi parce que juste je n'aime que les personnes qui sont issues de Madagascar, j'ai n'importe quoi. Mais qu'on arrête de totaliser les personnes selon une ethnicité ou une race sociologique. Que ce soit pour l'aimer ou pour la détester. Parce que le racisme, il est le même. C'est la même pièce.
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et au final, il s'agirait juste de retrouver en fait un côté plus humain dans nos rapports, en fait, plutôt que de continuer à tendre vers une objectification et une hypersexualisation du coup de l'autre et juste avoir des relations qu'elles soient sentimentales, affectives ou sexuelles, plus bienveillante et basée sur le respect de l'autre et le respect de son identité. Et voilà, c'est la fin de la deuxième et dernière partie de cet épisode. Encore un grand merci à Jamal pour sa participation au podcast sur ce sujet bien trop négligé et banalisé. Vous pouvez retrouver le travail de Jamal sur le compte Instagram de son podcast. Jeans Podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.